Mais voilà, c'est le chrono du jour. Hein,
puisque à 10h54 ce matin, très précisément heure française, eh bien c'est le moment précis où la population de l'Inde a dépassé celle de la Chine, selon la World Population Review, qui calcule la population mondiale en temps réel.
Être un double tranchant.
Oui. En
fait, on peut avoir une population qui a le plus grand nombre de gens entre 15 et 36 ans, donc une population jeune, mais si on n'arrive pas à donner l'éducation, santé, l'emploi, qu'est-ce qu'ils vont devenir, ces jeunes, surtout dans les États sous-développés du nord de l'Inde, comme Uttar Pradesh ou Bihar, où vraiment on n'a pas pu freiner la population. Et il y a une division nette qui est en train de se créer dans le pays, un petit peu à l'italienne, ouais, comme la Lega Nord, où les États riches du sud qui ont su conquérir ce défi de la croissance de population disent: nous, nous payons 70% des recettes et on gagne 25% des revenus par la redistribution. Ce n'est pas juste.
Kat,
dites-nous alors.
Zut. Est-ce que la moitié de la population, on a regardé tout à l'heure, justement.
Oui.
Ça va tellement vite.
Oui.
Ça, c'est en gros, quand j'ai commencé à travailler sur l'Inde, on était dans la situation de l'Afrique aujourd'hui, à peu près. Aujourd'hui, pas du tout. L'âge médian de la population indienne, on a été surpris, on a fait le pari tous les deux, enfin tous les trois. C'est 36 ans maintenant, enfin 32,5 plus exactement.
D'accord.
32,5. C'est un pays qui vieillit très vite. Et cette image-là des encombrements de métropole, etc., est un peu trompeur. Parce que la transition indienne est en plein
Qu'est-ce que vous
développement.
Voulez dire par la transition?
La transition démographique qui fait que vous avez un âge qui est celui de l'explosion de la population, puis ensuite un phénomène de stabilisation. Et si vous regardez le World Population, mais dans leurs projections, c'est passionnant, l'avenir est ouvert. On a une Inde à 2 milliards d'habitants en 2100, on a une Inde à 1,5 milliard qui ne bougerait pas, en fait, puisqu'elle a atteint quasiment 1,5 milliard. Mmh. Et puis vous avez une Inde qui suit un peu la Chine, mais un peu décalée,
population,
qui redescend à 1 milliard. C'est-à-dire, elle baisse sa population à partir de 2047. Donc les incertitudes démographiques sont très fortes.
D'accord.
Et puis, pour terminer sur la réponse, parce que, bien sûr, elle est précise, votre question, qui est de savoir avantages, inconvénients. Personne ne le sait, parce que c'est comme la charrue avant les bœufs. Mmh. On s'aperçoit dans le cas chinois, la première phase du développement maoïste a été fantastique. C'était l'élément qui a permis à la Chine de passer de 400 millions à peu près 800 millions. Et puis ensuite, grâce à cela, la Chine est devenue le centre du monde. Oui, mais elle a mis, comme le disait Béjou, de l'éducation, parce que les femmes sont allées à l'école avec Mao, c'était un de ses rares avantages.
Genre.
Et puis ensuite dans des usines. Donc la question est de savoir, est-ce que l'Inde va faire ça? C'est pas simple.
Effectivement, la classe moyenne a beaucoup cru depuis le début des années 2000, en fait. Hein. Et ça, ce qui donne à l'Inde un avantage en termes de marché aussi, évidemment, puisque c'est une partie de la société qui consomme de plus en plus et qui tire aussi la croissance indienne. Donc, bien sûr, alors ça reste quand même une minorité de la population. C'est un peu difficile aujourd'hui de donner des chiffres précis quand on rentre sur les différentes classes sociales, étant donné qu'il n'y a pas eu de recensement en 2021 comme c'était prévu. Donc, à cause du Covid. Et du coup, les chiffres précis que l'on a, ils datent de 2011. Donc, évidemment, pour chiffrer précisément. En tout cas, il y a au moins 300 millions de personnes et sans doute plus qui sont effectivement dans cette classe moyenne. Et donc, c'est quasiment la même proportion que la population européenne.
Mais aussi, il faut se rappeler que le think tank n'est pas du tout un think tank sans intérêt. Ça appartient et c'est grandement financé par le groupe Ambani, très, très proche de Modi.
Donc
le discours de développement, on est formidable, on va s'accroître.
C'est une prophétie autoréalisatrice.
Alors, dites-nous pourquoi.
Comment le gâteau est partagé.
Oui.
Et la pauvreté continue à s'accroître. C'est un pays de caste, mais c'est aussi un pays de caste et d'une pauvreté abjecte et extrême. Et le gouvernement a fait une chose qui est vraiment assez un peu louche, si vous voulez. Ils ont changer les conditions, c'est-à-dire le revenu minimum pour être considéré pauvre a été encore baissé. Donc, vous n'êtes plus pauvre si vous gagnez 60 dollars par mois, mais si vous gagnez que 50 dollars par mois. Donc, ces 10% s'échappent au calcul de la pauvreté. Et donc, la pauvreté est grandissante. Et la gap entre les super-riches et les autres.
Mais Jean-Joseph Walcourt,
quand précise de la puissance, c'est la capacité à imposer à l'autre ses idées ou ses intérêts.
Enfin, je parle en termes de PIB,
c'est
important.
En termes économiques, c'est la même chose.
Alors.
Moi, je préfère parler de géant. Si vous voulez, là, on a affaire à un géant. Pourquoi ? Parce que l'Inde n'a aucune capacité, à l'heure actuelle, d'influer, si vous voulez, sur les affaires du monde.
Non, mais...
Par contre, elle a une puissance au sens où elle est suffisamment fermée, autonome, pour ne pas se faire dicter par les autres les ordres. Dans le domaine économique, c'est un nain économique. Je vais me faire assassiner par tous les maudits. Pourquoi ? Parce que être la cinquième économie du monde, vous voyez, j'ai pas dit puissance. Et de s'en féliciter parce qu'on vient de passer la Grande-Bretagne. Attendez, excusez-moi, la Grande-Bretagne, c'est 70 millions d'habitants. L'Inde, c'est 1,5 milliard d'habitants. Et enfin, à l'échelle du monde, les échanges de l'Inde ne sont pas supérieurs aux échanges mondiaux de la Grande-Bretagne. Donc il faut faire attention. C'est une très grande économie, c'est un géant économique.
C'est un géant, mais pas une puissance. On entend votre point. Anne Viguier, Solfu.
Oui,
un petit rappel historique.
Oui, justement, en fait, il faut quand même rappeler que à la fin du XVIIIe siècle, l'Inde pesait pour à peu près 25% de l'économie mondiale, et elle était retombée à 4% après à la fin de la période coloniale. Donc, on a eu un effacement finalement de l'Inde d'un point de vue économique, et donc elle reprend en quelque sorte sa juste place. Alors, évidemment, entre temps, il y a eu d'autres éléments qui sont la croissance démographique, l'explosion démographique des années 50-60. Même si c'était déjà un pays très peuplé auparavant. Donc dire que l'Inde n'a pas de puissance économique, je pense que c'est un peu exagéré quand même. Il y a des multinationales qui sont présentes.
C'est quoi, c'est quoi les points forts de l'économie indienne ?
Alors il y a plusieurs aspects. En fait, vous avez les biotechnologies, par exemple, l'informatique, pour lesquelles les Indiens ont une appétence particulière. Et il y a, par exemple, 23 instituts de technologie qui sont extrêmement, d'ailleurs, recherchés par ça fait partie des concours les plus difficiles au monde, en fait, pour y rentrer. Tellement les jeunes Indiens se précipitent pour essayer. Alors, évidemment, ça ne fait pas énormément de gens derrière, parce que à la mesure de la population de l'Inde, ça reste réduit. Mais ça donne quand même un volant de personnes bien formées qui sont à la tête de start-up ou d'entreprises plus importantes, comme Infosys ou d'autres.
Et Vijouna Ramanis.
La commerce entre des sociétés de taille moyenne et de taille plus ou moins grande, mais les grands champions, il y a des grands contrats. Par exemple, avec Veolia pour l'assainissement des eaux, pour la purification de l'air, dans les nanotechnologies, dans l'armement surtout. Et c'est à cause de ça que beaucoup de pays occidentaux se tournent la tête, ils font l'aveugle quand il y a des choses antidémocratiques qui se passent en Inde, parce que l'Inde n'est plus la démocratie qu'elle était, même si Modi dit que c'est la mère de toutes les démocraties, ça devient une démocratie, une autocratie électorale.
Alors, vous savez, l'Inde a appris un proverbe, non, qui est que le monde piétine les fourmis et flatte l'éléphant. Et alors, vous ne pouvez pas d'un côté dire que c'est devenu une puissance économique, et d'un autre côté, vous étonnez de ce que l'éléphant décide, y compris de piétiner les libertés, parce que la Fédération indienne, l'Union indienne, c'est aussi un géant démocratique, mais complexe. Il y a une trentaine d'États, de langues différentes, etc. Comment arriver à faire tenir cela ? Narendra Modi, c'est mon sentiment en tout cas, est l'expression, à un moment donné, d'un liant possible, je dis bien d'un liant possible, certains disent néo-fascistes, néo-indouiste en tout cas,
nationalistes,
qui, dans les faits, pour l'instant, a traversé deux étapes électorales, va probablement en 24 traverser la troisième, et qui fait que désormais tout le monde flatte ce pays, et notamment, attendez, pour la France, les contrats d'armement, les échanges économiques, c'est très faible. Hein. Vous savez que la Chine, ça fait 20% des importations de l'Europe, et en provenance d'Inde, c'est 3%. C'est pour ça que je dis attention à la notion de puissance. Par contre, en termes d'armement, il faut bien comprendre une chose. La Russie est passée de 60% des ventes d'armes de l'Inde à 40%, donc il y a une chute, on peut parler d'une chute. Qui l'a remplacée ? Paris. Et Paris a joué... Depuis maintenant 3 ambassadeurs, le seul consigne qu'ils ont, c'est vendre des armes, vendre des armes, vendre des armes, vendre des armes. Pourquoi ? Parce que l'Inde est le premier acheteur mondial d'armement.
Vous voulez réagir ?
Il faut nuancer effectivement cette diminution de la part des Russes, parce qu'effectivement en valeur, on voit que les importations russes diminuent, mais néanmoins, comme l'Inde a été pendant des années approvisionnée jusqu'à 80% par les Russes, eh bien, ils ont beaucoup de leurs armes qui ont besoin toujours de l'apport russe. Donc ça reste quand même une dépendance très forte.
Maudit d'ailleurs.
D'un côté, Washington a besoin de l'Inde parce qu'ils ont besoin de quelque chose pour contrer l'effet chinois, et l'Inde se prête à ça parce qu'ils font partie du Quad, qui est une espèce d'alliance entre le Japon, l'Australie, l'Inde et les États-Unis. De l'autre côté, l'Inde a profité énormément de la guerre en Ukraine parce qu'on a acheté beaucoup de produits pétroliers à des prix absolument cassants. L'Inde est actuellement président des G20 et là, pour la première fois dans la dernière réunion de G20, on n'est pas sorti avec un communiqué commun. Et ça, c'était très important. Mais pour vous donner une nouvelle, ça sera Modi qui sera l'invité d'honneur pour le 14 juillet.
Ici, donc, en France.
Il sera en France avec les bataillons militaires qui vont venir défiler avec... voilà, ça, c'est une nouvelle toute fraîche.
C'est un scoop. Merci.
Pourquoi ne choisit pas, etc. Mais du point de vue de l'Inde, il n'y a rien d'illogique. En fait, ils suivent une ligne, finalement, qui n'a pas tellement changé depuis 1947, qui est de surtout pas se retrouver à la remorque d'une grande puissance. Ils ont connu quand même la colonisation. Ils étaient privés de politique étrangère au service de l'Empire britannique. Et donc, ils poursuivent cet objectif-là. Donc, au multilatéralisme, à un moment, on parlait de bilatéralisme tout azimut, parce que c'était plutôt pouvoir discuter avec tout le monde en fonction de ses propres intérêts, de sa stratégie. Donc, après, les Indiens vont dire, bon, bah,
c'est pas un opportunisme pour vous, quoi.
Bah, il y a plutôt du pragmatisme. Mais cet idéalisme que peut-être qu'il y avait au départ avec justement la position du non-alignement, en fait, assez rapidement, dans les années 70, l'Inde s'était rapprochée de l'URSS, donc c'était un alignement qui était plus trop équidistant.
C'est une très très vieille diplomatie parce qu'elle remonte à 25 siècles. Dans le grand texte, l'art de la guerre, le Sun Tzu, tout le monde le connaît, du côté chinois, on ne connaît pas assez l'Arthashastra. Il y a 6 stratégies qui sont définies pour le roi, pour le monarque. Il y en a une qui s'appelle le Vaidi Vaja, c'est-à-dire le double jeu. Donc ce n'est pas de l'opportunisme, et ce n'est pas de la neutralité, parce que la quatrième stratégie, c'est de la neutralité, Sanda. Mais le Vaidi Vaja, c'est double cette idée selon lequel, quand je suis entouré... Je vais regarder qui est ennemi, qui est ennemi, et je n'ai pas à choisir et à m'aligner sur des amis ou des ennemis, parce que je suis faible, je vais donc jouer sur les deux tableaux, double jeu. Et attendez, l'Inde est en train de récupérer les dividendes de ce double jeu. Elle importe le pétrole, comme a été dit tout à l'heure, et elle exporte tout en France.
Du Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, c'est un des éléments sur lequel les Russes promettaient d'aider l'Inde pour rentrer justement dans ce comité.
Tout le monde a promis.
Évidemment, la Chine, de toute façon s'y opposant par son veto, ça avait peu de chances d'aboutir. Mais il y avait cet aspect-là aussi dans la relation entre l'Inde et la Russie.
Vous lui ajoutez
là, on pourra parler de puissance.
Ah oui.
Lorsque l'Inde sera membre permanent, c'est
bien sûr, bien sûr.
Ça viendra.
Bien sûr. Parce que, comme vous le dites, sur le plan économique, sur le plan de la population, rien ne peut arrêter ce qui est le nouvel ordre économique et politique international. Alors, ça n'interviendra pas tout seul, parce que l'Allemagne y sera, etc. Donc, c'est ça qui est en jeu.
Ça ne viendra pas parce que, simplement, si on fait l'arithmétique, ça ne coûte rien à la France de dire l'Inde a vocation de devenir membre de conseil de sécurité. Mais l'organisation de conférences islamiques est totalement contre. Comptez les voix. Comptez le nombre de voix et vous n'êtes pas...
L'arithmétique, ce n'est pas possible.
Pas possible.
Très bien. Eh bien, écoutez...